Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, 5e cassette, 2e face, page 174. Chapitre 22, la punition. Je restai seul jusqu'au soir. Personne ne vint me voir. Je m'ennuyais et je vins dans la soirée me mettre près des domestiques qui prenaient l'air à la porte de l'office et qui causaient. Si j'étais à la place de madame, dit le cuisinier, je me débarrasserais de cette âme.
Il devient par trop méchant en vérité, dit la femme de chambre. Voyez donc le tour qu'il a joué à ce pauvre Auguste. Il aurait pu le tuer ou le noyer tout de même.
Et c'est qu'après, il avait l'air tout joyeux encore, répondit le valet de chambre. Il courait, il sautait, il braillait comme s'il avait fait un beau coup. Il le paiera, allez, dit le cocher. Je lui donnerai une raclée pour son souper. Prends garde, si madame s'en aperçoit. Et comment madame le saurait-elle? Crois-tu que je vais lui donner des coups de fouet sous les yeux de madame? J'attendrai qu'il soit à l'écart. Tu pourrais bien attendre longtemps. Cet animal qui fait toutes ses volontés rentre quelquefois si tard. Oh, mais s'il m'ennuie trop, saurais bien le faire rentrer malgré lui. Et sans que personne s'en doute.
Comment vous y prendrez-vous, dit la femme de chambre. Ce maudit homme va brer à sa façon et à meuter toute la maison.
Laissez donc, répliqua le cocher. Je lui couperai le sifflet et on l'entendra seulement pas respirer. Je les trouvais tous bien méchants. J'étais en colère. Je cherchais un moyen de me soustraire à la correction qui me menaçait. J'aurais voulu me jeter sur eux et les mordre tous, mais je n'osais pas, de peur qu'ils n'allassent encore se plaindre à ma maîtresse, et je sentais vaguement que, fatigué de mes tours, ma maîtresse pourrait bien me chasser de chez elle. Pendant que je délibérais, la femme de chambre fit remarquer au cocher mes yeux méchants. Le cocher hocha la tête, se leva, entra dans la cuisine, en ressortit comme pour aller à l'écurie, et en passant devant moi, me lança au cou un nœud coulant. Je tirai en arrière pour le briser, et il tira en avant pour me faire avancer. Nous tirions chacun de notre côté. Je tire, il tire, nous tirons. Mais plus nous tirions, plus la corde m'étranglait. Dès le premier moment, j'avais vainement essayé de braire. Je pouvais à peine respirer, et je cédais forcément à l'attraction du cocher. Il m'amena ainsi jusqu'à l'écurie, dont la porte fut obligeamment ouverte par les autres domestiques. Une fois entré dans ma salle, on me passa promptement mon licou, on lâcha la corde qui m'étranglait, et le cocher, ayant soigneusement fermé la porte, se saisit d'un fouet de charretier et commença à m'en frapper impitoyablement sans que personne prît ma défense. Blanc, blanc! Et voilà, c'est bien fait pour toi. J'eus beau braire, me démener. Mes jeunes maîtres ne m'entendirent pas, et le méchant cocher put me faire expier à son aise les méchancetés dont il m'accusait. Il me laissa enfin dans un état de douleur et d'abattement impossible à décrire. C'était la première fois depuis mon entrée dans cette maison que j'avais été humilié et battu. Depuis, j'ai réfléchi et j'ai reconnu que je m'étais attiré cette punition. Le lendemain, il était déjà tard quand on me fit sortir. J'eus bonne envie de mordre le cocher au visage, mais je fus arrêté comme la veille par la crainte d'être chassé. Je me dirigeai vers la maison, je vis les enfants rassemblés devant le perron et causant avec animation. « Le voilà, ce méchant cadichon !» dit Pierre en me regardant approcher. « Chassons-le, il pourrait bien nous mordre. » Ou nous jouer quelques mauvais tours, comme il a fait l'autre jour, à ce malheureux Auguste.
Qu'est-ce que le médecin a dit à papa tout à l'heure, demanda Camille.
Il a dit qu'Auguste était très malade. Il a la fièvre, le délire. Qu'est-ce que le délire, demanda Jacques. Le délire, répondit Pierre, c'est quand on a la fièvre si fort qu'on ne sait plus ce qu'on dit. On ne reconnaît personne et on croit voir un tas de choses qui n'existent pas. « Mais qu'est-ce que voit donc Auguste ?» demanda Louis. « Il croit toujours voir Cadichon, » dit Pierre. « Cadichon qui veut se jeter sur lui et qui le mord, le piétine. Le médecin est très inquiet. Papa et mes oncles y sont allés.
Comme c'est vilain, à perdition, d'avoir jeté le pauvre Gus dans ce trou dégoûtant, s'écria Madeleine.
Oui, c'est très vilain, monsieur, s'écria Jacques en se retournant vers moi. Allez, vous êtes un méchant. Je ne vous aime plus.
Ni moi.
Ni moi.
Ni moi.
Ni moi.
Ni moi.
Répétèrent tous les enfants à l'unisson. Va-t'en, nous ne voulons pas de toi. J'étais consterné. Tous, jusqu'à mon petit Jacques que j'aimais toujours tendrement, tous me chassaient, me repoussaient. Je m'éloignai lentement de quelques pas. Je me retournai et les regardai d'un air si triste que Jacques en fut touché. Il courut à moi, me prit la tête et me dit d'une voix caressante. Écoute, Cadichon, nous ne t'aimons pas à présent, mais si tu es bon, je t'assure que nous t'aimerons comme auparavant. Non, non, non,
jamais comme avant,
s'écrièrent tous les enfants, il est trop mauvais. Vois-tu, Cadichon, voilà ce que c'est que d'être méchant, reprit le petit Jacques, en me passant la main sur le cou. Tu vois que personne ne veut t'aimer. Mais, ajouta-t-il en me parlant à l'oreille, je t'aime encore un peu. Et si tu n'es plus méchant, je t'aimerai beaucoup, tout comme avant. Prends garde, Jacques, dit Henri, ne t'approche pas trop de trop près. S'il te donne un coup de dent ou un coup de pied, il te fera bien du mal. Il n'y a pas de danger, dit Jacques. Je suis sûr qu'il ne nous mordra pas, nous autres. Tiens, pourquoi, demanda Henri. Il a bien jeté Auguste deux fois par terre. Oh, mais Auguste, c'est autre chose, répondit Jacques. Il ne l'aime pas. Et pourquoi ne l'aime-t-il pas, demanda Henri. Qu'est-ce qu'Auguste lui a fait? Il pourrait bien un jour aussi nous détester, nous. Jacques ne répondit pas, car il n'y avait effectivement rien à répondre. Mais il secoua la tête, et se retournant vers moi, il me fit une petite caresse amicale dont je fus touché jusqu'aux larmes. L'abandon de tous les autres me rendit plus précieux encore ces témoignages d'affection de mon cher petit Jacques, et pour la première fois, une pensée sincère de repentir se glissa dans mon cœur. Je songeai avec inquiétude à la maladie du malheureux Auguste. Dans l'après-midi, on sut qu'il était plus mal encore, que le médecin avait des inquiétudes graves pour sa vie. Mes jeunes maîtres y allèrent eux-mêmes vers le soir. Les cousines attendaient impatiemment leur retour.
Eh bien, leur criait-elle du plus loin qu'elles les aperçurent. Quelle nouvelle? Comment va Auguste?
Pas bien, répondit Pierre, et pourtant un peu moins mal que tantôt. Le pauvre père fait pitié, dit Henri. Il pleure, il sanglote, il demande au bon Dieu de lui laisser son fils. Il dit des choses si touchantes que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer.
Nous allons tous prier avec lui, dit Elisabeth, et pour lui, à notre prière du soir. N'est-ce pas, mes amis?
Certainement, et de grand cœur, dirent tous les enfants en même temps.
Pauvre Auguste, il allait mourir pourtant, s'écria Madeleine. Le pauvre père deviendrait fou de chagrin, dit Camille, car il n'a pas d'autre enfant. Où est donc la mère d'Auguste, demanda Elisabeth. On ne la voit jamais.
Quoi, il serait étonnant qu'on la vit, puisqu'elle est morte depuis 10 ans. Et ce qu'il y a de singulier, ajouta Henri, c'est que la pauvre femme est morte pour être tombée dans l'eau pendant une promenade en bateau.
Comment? Elle s'est noyée? Demanda Elisabeth.
Non, dit Pierre, on l'a retirée immédiatement, mais il faisait si chaud, et elle avait été tellement saisie par le froid de l'eau et par la frayeur, qu'elle a été prise de la fièvre et du délire exactement comme Auguste, et elle est morte 8 jours après.
Mon Dieu, pourvu qu'il n'en arrive pas autant à Auguste, s'écria Camille. Voilà pourquoi il faut que nous prions beaucoup, dit Elisabeth. Peut-être le bon Dieu nous accordera-t-il ce que nous lui demanderons. Où est donc Jacques, dit Madeleine. Il était ici tout à l'heure. Il sera rentré.
Il n'était pas rentré, le pauvre enfant, mais il s'était mis à genoux derrière une caisse et, la tête cachée dans ses mains, il priait et pleurait. Et c'était moi qui avais causé la maladie d'Auguste, l'affreuse inquiétude du malheureux père et enfin le chagrin de mon petit Jacques. Cette pensée m'attriste à moi-même. Je me dis que je n'aurais pas dû venger Médor. Quel bien lui a fait la chute d'Auguste, me demandai-je. Est-il moins perdu pour moi? La vengeance que j'ai tirée m'a-t-elle servi à autre chose qu'à me faire craindre et détester? J'attendis avec impatience le lendemain pour avoir des nouvelles d'Auguste. J'en eus dans les premiers, car Jacques et Louis me firent atteler à la petite voiture pour y aller. Nous trouvâmes en arrivant un domestique qui courait chercher le médecin, le docteur Tudoux, et qui nous dit en passant qu'Auguste avait passé une mauvaise nuit et qu'il venait d'avoir une convulsion qui avait effrayé son père. Jacques et Louis attendirent le médecin qui ne tarda pas à venir et qui leur promit de leur donner des nouvelles en s'en allant. Une demi-heure après, il descendit le perron. « eh bien, docteur Tudoux, comment va Auguste ?» demandèrent Louis et Jacques. « pas mal, mes enfants, » dit le docteur Tudoux. « Pas si mal que je le craignais. » « Mais ces convulsions, demanda Louis, n'est-ce pas dangereux ?»« Non, c'était la suite d'un agacement de nerfs et d'une grande agitation. Je lui ai donné une pilule qui va le calmer. Ce ne sera pas grave. »« Alors, monsieur Tudoux, demanda Jacques, vous n'êtes pas inquiet, vous ne croyez pas qu'il va mourir ?»« Non, 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 ce ne sera pas grave. » Pas grave du tout. Ah, je suis bien content. Merci, monsieur Tudoux, dirent les deux garçons. Adieu, nous repartons bien vite pour rassurer nos cousins et cousines. Attendez, attendez une minute, demanda le docteur. L'âme qui vous mène n'est-il pas cadichon?
Oui, c'est cadichon, dit Jacques.
Alors prenez-y garde. Il pourrait bien vous jeter dans un fossé, comme il l'a fait pour Auguste. Dites à votre grand-mère qu'elle ferait bien de le vendre. C'est un animal dangereux.
Monsieur Tudoux salua et s'en alla. Je restai tellement étonné et humilié que je ne songeais pas à me mettre en route. Et qu'il fallut que mes petits maîtres me répétassent trois fois.
« Allons, cadichon, en route !»« Allons, allons donc, cadichon, nous sommes pressés »« Vas-tu nous faire coucher ici, cadichon ?»« Donc !»
Je partis enfin et je courus tout d'un trait jusqu'au perron où attendaient cousins, cousines, oncles et tantes, papas et mamans.
« Il va mieux !» s'écrièrent Jacques et Louis,
et ils se mirent à raconter leur conversation avec M. Tudoux sans oublier son dernier conseil. J'attendais avec une vive impatience la décision de la grand-mère. Elle réfléchit un instant.
Il est certain, mes chers enfants, que cadichon ne mérite plus notre confiance. J'engage les plus jeunes d'entre vous à ne pas le monter. À la première sottise qu'il fera, je le donnerai au meunier, qui l'emploiera à porter ses sacs de farine. Mais je veux encore l'essayer, avant de le réduire à cet état d'humiliation. Peut-être corrigera-t-il. Nous verrons bien d'ici à quelques mois.
J'étais de plus en plus triste, humilié et repentant. Mais je ne pouvais pas réparer le mal que je m'étais fait. Je ne pouvais le faire qu'à force de patience, de douceur et de temps. Je commençais à souffrir dans mon orgueil et dans mes affections.
Les nouvelles d'Auguste furent meilleures le lendemain. Peu de jours après, il entrait en convalescence et l'on ne s'en occupa plus au château. Mais je ne pus pas en perdre le souvenir, car j'entendais sans cesse dire autour de moi « Prends garde à cadichon, souviens-toi d'Auguste !» Chapitre 23, la conversion. Depuis le jour où j'avais déchiré le visage d'Auguste en galopant dans les épines et où je l'avais jeté dans la boue, le changement dans les manières de mes petits maîtres, de leurs parents, des gens de la maison était visible. Les animaux même ne me traitaient pas comme auparavant. Ils semblaient m'éviter. Quand j'arrivais, ils s'éloignaient, ils se taisaient en ma présence. Car j'ai déjà dit à propos de mon ami Médor que nous autres animaux, nous nous comprenons sans parler comme les hommes, que les mouvements des yeux, des oreilles, de la queue remplacent chez nous les paroles. Je ne savais que trop ce qui avait causé ce changement et je m'en irritais plus encore que je ne m'en affligeais lorsqu'un jour, étant seul comme d'habitude et couché au pied d'un sapin, je vis approcher Henri et Élisabeth. Ils s'assirent et continuèrent à causer.
« Je crois, Henri, que tu as raison, dit Élisabeth, et je partage tes sentiments. Moi aussi, je n'aime presque plus cadichon depuis qu'il a été si méchant pour Auguste. »
« Et ce n'est pas seulement pour Auguste.
Te souviens-tu de la foire de l'aigle quand il a été si mauvais pour le maître de l'âne savant?
Oh, oui, je me rappelle très bien. Il était drôle. Tout le monde riait. Mais tout de même, nous avons tous trouvé qu'il avait montré beaucoup d'esprit, mais pas de cœur.
C'est vrai. Il a humilié ce pauvre âne et son maître, le faiseur de tours. On m'a dit que le malheureux avait été obligé de partir sans avoir rien gagné, parce que tout le monde se moquait de lui. En s'en allant, sa femme et ses enfants pleuraient. Ils n'avaient pas de quoi manger.
Et c'était la faute de Cabuchon.
Certainement. Sans lui, le pauvre homme aurait gagné de quoi vivre pendant quelques semaines.
Et puis, te rappelles-tu ce qu'on nous a raconté des méchancetés qu'il a faites chez son ancien maître? Il mangeait les légumes, il cassait les œufs, il salissait les linges. Décidément, je fais comme toi, je ne l'aime plus.
Élisabeth et Henri se levèrent et continuèrent leur promenade. Je restais triste et humilié. D'abord, je voulus me fâcher et chercher une petite vengeance à exercer. Mais je pensais qu'ils avaient raison. Je m'étais toujours vengé. Et à quoi m'avaient servi mes vengeances? À me rendre malheureux. D'abord, j'avais cassé les dents, les bras et l'estomac à une de mes maîtresses. Si je n'avais pas eu le bonheur de m'échapper, j'aurais été battu à me faire presque mourir. J'avais fait 1000 méchancetés à mon autre maître qui avait été bon pour moi, tant que je n'avais pas été paresseux et méchant. Depuis, il m'avait très maltraité et j'avais été très malheureux. Quand Auguste avait tué mon ami Médor, je n'avais pas réfléchi qu'il l'avait fait par maladresse et non par méchanceté. S'il était bête, ce n'était pas de sa faute. J'avais persécuté ce malheureux Auguste et j'avais fini par le rendre très malade en le jetant dans une mare de boue. Et puis, que de petites méchancetés j'avais faites et que je n'ai pas racontées. J'avais donc fini par ne plus être aimé de personne. J'étais seul. Personne ne venait près de moi me consoler, me caresser. Les animaux même me fuyaient. Que faire, me demandais-je tristement. Si je pouvais parler, j'irais leur dire à tous que je me repens, que je demande pardon à tous ceux auxquels j'ai fait du mal, que je serai bon et doux à l'avenir. Mais je ne peux pas me faire comprendre. Je ne parle pas. Je me jetais sur l'herbe et je pleurais, non pas comme les hommes qui versent des larmes, mais dans le fond de mon cœur. Je pleurais, je gémis sur mon malheur, et pour la première fois, je me repentis sincèrement. Ah, si j'avais été bon, si au lieu de vouloir montrer mon esprit, j'avais montré de la bonté, de la douceur, de la patience, si j'avais été pour tous ce que j'avais été pour Pauline, comme on m'aimerait et comme je serais heureux. Je réfléchis longtemps, bien longtemps. Je formais tantôt de bons projets, tantôt de méchants. Enfin, je me décidai à devenir bon, de manière à regagner l'amitié de tous mes maîtres et de mes camarades. Je fis immédiatement l'essai de mes bonnes résolutions. J'avais depuis quelque temps un camarade, un autre âne, que je traitais fort mal. C'était un âne qu'on avait acheté pour faire monter ceux de mes plus jeunes maîtres qui avaient peur de moi depuis que j'avais manqué noyer Auguste. Les grands seuls ne me craignaient pas. Et même lorsqu'on faisait une partie d'âne, le petit Jacques était le seul qui me demanda toujours, au lieu que jadis on se disputait pour m'avoir. Je méprisais ce camarade. Je passais toujours devant lui, je ruais, je le mordais s'il cherchait à me dépasser. Le pauvre animal avait fini par me céder toujours la première place et se soumettre à toutes mes volontés. Le soir, quand l'heure fut venue de rentrer à l'écurie, je me trouvai près de la porte, presque en même temps que mon camarade. Il se rangea avec empressement pour me laisser entrer le premier. Mais comme il était arrivé quelques pas en avant de moi, je m'arrêtai à mon tour et je lui fis signe de passer. Le pauvre âne m'obéit en tremblant, inquiet de ma politesse et craignant que je ne le fisse marcher le premier, pour lui jouer quelques tours, par exemple, lui donner un coup de dent ou un coup de pied. Il fut donc très étonné de se retrouver sain et sauf dans sa stalle et de me voir me placer paisiblement dans la mienne. Voyant son étonnement, je lui dis « Mon frère, j'ai été méchant pour vous, je ne le serai plus. J'ai été fier, je ne le serai jamais. Je vous ai méprisé, humilié, maltraité. Je ne recommencerai pas. Pardonnez-moi, frère, et à l'avenir, voyez en moi un camarade et un ami. Merci, frère, me répondit le pauvre homme tout joyeux. J'étais malheureux, je serai heureux. J'étais triste, je serai gai. Je me trouvais seul, je me sentirai aimé et protégé. Merci encore une fois, frère. Aimez-moi, car je vous aime déjà. À mon tour, frère, de vous dire merci, repris-je, car j'ai été méchant et vous me pardonnez. Je reviens à de meilleurs sentiments et vous me recevez. Je veux vous aimer et vous me donnez votre amitié. Oui, à mon tour, merci, frère. Et tout en mangeant notre souper, nous continuâmes à causer. C'était la première fois, car jamais je n'avais daigné lui parler. Je le trouvais bien meilleur, bien plus sage que je ne l'étais moi-même, et je lui demandais de me soutenir dans ma nouvelle voie. Il me le promit avec autant d'affection que de modestie. Les chevaux, témoins de notre conversation et de ma douceur inaccoutumée, se regardaient et me regardaient avec surprise. Quoiqu'ils parlassent bas, je les entendais dire. C'est une farce de cadichon, dit le premier cheval. Il veut jouer quelque méchant tour à son camarade. Pauvre homme, j'ai pitié de lui, dit le second cheval. Si nous lui disions de se méfier de son ennemi. Pas tout de suite, répondit le premier cheval. Silence. Cadichon est méchant. S'il nous entend, il se vengera. Je fus blessé de la mauvaise opinion qu'avaient de moi ces deux chevaux. Le troisième n'avait pas parlé. Il avait passé sa tête sur sa stalle et il m'observait attentivement. Je le regardais tristement et humblement. Il parut surpris, mais il ne bougea pas et resta silencieux, m'observant toujours. Fatigué de ma journée, abattu par la tristesse et le regret de ma vie passée, je me couchai sur la paille et je remarquai que mon lit était moins bon, moins épais que celui de mon camarade. Au lieu de m'en fâcher, comme j'aurais fait jadis, je me dis que c'était juste et bien. J'ai été méchant, me dis-je. On m'en punit. Je me suis fait détester, on me le fait sentir. Je dois encore me trouver heureux de ne pas avoir été envoyé au moulin où j'aurais été battu, éreinté, mal couché. Je gémis pendant quelque temps et je m'endormis. À mon réveil, je vis entrer le cocher qui me fit lever d'un coup de pied, détacha mon licou et me laissa en liberté. Je restai à la porte et le vis avec surprise étrier, brosser soigneusement mon camarade, lui passer ma belle bride pomponnée, attacher sur son dos ma selle anglaise et le diriger devant le perron. Inquiet, tremblant d'émotion, je le suivis. Quels ne furent pas mon chagrin, ma désolation, quand je vis Jacques, mon petit maître bien-aimé, approcher de mon camarade et le monter après quelque hésitation. Je restai immobile, anéanti. Le bon petit Jacques s'aperçut de ma peine, car il s'approcha de moi, me caressa la tête et me dit tristement, « Pauvre cadichon, tu vois ce que tu as fait. Je ne peux plus te monter. Papa et maman ont peur que tu ne me jettes par terre. Adieu, pauvre cadichon. Sois tranquille. Je t'aime toujours. » Et il partit lentement, suivi du cocher qui lui criait. « Prenez donc garde, monsieur Jacques. Ne restez pas auprès de cadichon. Il vous mordra. Il mordra le bourri. Il est méchant, vous savez bien. Il n'a jamais été méchant avec moi, et il ne le sera jamais, répondit Jacques. Le cocher frappa l'âne qui prit le trot. Je l'ai perdu bientôt de vue. Je restai à la même place, abîmé dans mon chagrin. Ce qui en redoublait la violence, c'était l'impossibilité de faire connaître mon repentir et mes bonnes résolutions. Ne pouvant plus supporter le poids affreux qui oppressait mon cœur, je partis en courant sans savoir où j'allais. Je courus longtemps, brisant des haies, sautant des fossés, franchissant des barrières, traversant des rivières. Je ne m'arrêtai qu'en face d'un mur que je ne pus ni briser, ni franchir. Je regardai autour de moi. Où étais-je? Je croyais reconnaître le pays, mais sans toutefois pouvoir me dire où je me trouvais. Je longeai le mur au pas, car j'étais en nage. J'avais couru pendant plusieurs heures, à en juger par la marche du soleil. Le mur finissait à quelques pas. Je le tournai et reculai avec surprise et terreur. Je me trouvai à deux pas de la tombe de Pauline. Ma douleur n'en devint que plus amère. Pauline, ma chère petite maîtresse, m'écriai-je, vous m'aimiez parce que j'étais bon, je vous aimais parce que vous étiez bonne et malheureuse. Après vous avoir perdue, j'avais trouvé d'autres maîtres qui étaient bons comme vous et qui m'ont traité avec amitié. J'étais heureux. Mais tout est changé. Mon mauvais caractère, le désir de faire briller mon esprit, de satisfaire mes vengeances, ont détruit tout mon bonheur. Personne ne m'aime à présent. Si je meurs, personne ne me regrettera. Je pleurai amèrement au-dedans de moi-même et je me reprochai pour la centième fois mes défauts. Une pensée consolante vint tout à coup me rendre du courage. Si je deviens bon, me dis-je, si je fais autant de bien que j'ai fait de mal, mes jeunes maîtres m'aimeront peut-être de nouveau. Mon cher petit Jacques, surtout, qui m'aime encore un peu, me rendra toute son amitié. Mais comment faire pour leur montrer que je suis changé et repentant? Fin de la deuxième face de la cinquième cassette, page 192, Les Mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.